Bonjour et bienvenue sur Radio CSEURT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 19 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Île-de-France. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui continue de soulever des préoccupations majeures au sein des experts en cybersécurité. Les vulnérabilités Spectre qui affectent les processeurs Intel et AMD malgré des années d'efforts pour les mitiger. The Register nous remonte que récemment, des chercheurs de l'ETH Zurich, Johannes Wickner et Kaveh Razavi, ont révélé une nouvelle méthode d'attaque qui met en lumière des failles encore exploitables même sur les micro-architectures récentes. Pour rappel, les attaques Spectre exploitent une faiblesse liée à l'exécution spéculative des processeurs, une technique couramment utilisée pour optimiser les performances. Cette technique permet aux processeurs de prédire les chemins d'exécution des programmes et d'anticiper certaines opérations. Jusque-là, on est sur de l'optimisation, c'est pas des vulnérabilités. Cependant, lorsqu'une prédiction est incorrecte, elle peut ouvrir la porte à des attaques visant à extraire des données sensibles en dehors des limites autorisées, notamment des informations critiques comme des mots de passe ou des clés de chiffrement. L'étude des chercheurs se concentre sur une attaque Spectre qui dérandomise l'adresse Space Layout Randomization, ce qu'on appelle la CLR dans le monde du microprocesseur, et elle permet la fuite du hachage du mot de passe root depuis des processeurs SUAD. Alors, ça peut être le mot de passe root comme admin, hein. Et c'est valable sur tous les processeurs Intel récents. Plus inquiétant encore, ils ont identifié un bug dans le microcode des processeurs Intel des générations 12, 13 et 14, ainsi que des générations 5 et 6 sur les Xeon, sur les serveurs, qui permet de conserver les prédictions de branchement, même après l'exécution de ce qu'on appelle l'IBPB, c'est l'Indirect Branch Predictor Barrier. Cette barrière censée prévenir des attaques Spectre V2, qui était connue, si vous vous souvenez, à l'époque de la CVE 2017-5715, ça joue pas son rôle. C'est-à-dire que cette barrière qui devait jouer cette protection, elle n'est pas effective sur ces architectures. Alors les conséquences, elles sont effectivement assez sérieuses lors de l'exploitation. L'attaquant pourrait contourner les frontières de sécurité établies entre les processus et les machines virtuelles, créant ainsi une brèche majeure dans les environnements cloud et multitenantes. Par ailleurs, les processeurs AMD ne sont pas exempts du risque. Les chercheurs ont réussi à lire arbitrairement de la mémoire noyau à partir des processus non privilégiés sur des architectures Zen 2 d'AMD, affectant potentiellement les utilisateurs de Linux. Bien entendu, les deux fabricants ont réagi. Intel a publié un patch de microcode, le Intel SA00982, en mars 2024, et AMD a proposé un correctif dès novembre 2022, l'AMD SB1040. Cependant, certains systèmes n'ont pas encore intégré ces mises à jour. Et dans certains cas, comme sur Ubuntu, les correctifs sont toujours en attente de publication depuis la sortie de cette étude. Cette nouvelle découverte met en lumière un problème fondamental dans la gestion des attaques liées à l'exécution spéculative. La vraie difficulté n'est pas d'appliquer ce patch, on le sait tous, appliquer un patch, on sait le faire, mais c'est d'avoir la possibilité de le faire sur l'ensemble des serveurs, des PC, avec tous les impacts business que ça fait. Parce qu'appliquer un patch sur du microcode processeur, on a quand même un pourcentage, je dirais, relativement élevé que ça se passe pas bien, quoi. Donc il faut savoir faire marche arrière, etc. Ça va mobiliser beaucoup de monde. Bon courage aux équipes de patch management. J'ai hâte de voir comment les entreprises vont s'organiser par rapport à cette nouvelle menace qui revient. Europol nous informe qu'une importante opération de démantèlement d'un réseau criminel transfrontalier spécialisé dans les attaques de distributeurs automatiques de billets à l'aide d'explosifs. Le 16 octobre 2024, les forces de police néerlandaises, françaises et allemandes, en collaboration avec Europol, ont arrêté trois membres clés de cette organisation criminelle. Ce réseau est soupçonné d'avoir causé des millions d'euros de pertes financières et de dommages matériels en orchestrant des attaques entre 2022 et 2024. Je vous invite à lire l'article, mais surtout à aller voir la vidéo YouTube de l'arrestation en direct des trois personnes. C'est très surprenant de voir comment que ces personnes vont habiter dans un quartier pavillonnaire, classique, sans, il n'y a rien d'ostentatoire. Il n'y a pas de Porsche Cayenne, on n'a pas des Lamborghini qui sont garés devant le truc, on n'est pas à Dubaï, quoi. C'est surprenant comment à 6h du matin, ils se font réveiller par nos amis des forces de l'ordre, aussi bien françaises, allemandes et néerlandaises, et on se rend compte que c'est des gens comme... J'irais tout à fait normaux, vous les croisez, vous dites « mais c'est mon voisin ». Donc, il faut savoir que le mode opératoire de ce groupe, ça consistait à utiliser des explosifs, souvent issus des feux d'artifice. Donc, ils récupéraient des mortiers, ils faisaient sauter les gabs, et ils prenaient la fuite à bord de véhicules puissants qu'ils avaient loués, et donc ça amenait beaucoup de dangerosité sur leur action, il y avait un risque majeur que les gens soient blessés. Ce que moi, je retiens de cette action d'Europol, c'est que c'est une action coordonnée, des perquisitions ont été menées dans plusieurs pays, que ce soit aux Pays-Bas, en France, en Allemagne. C'est vraiment bien fait, c'est bravo aux forces de l'ordre. Cette opération va marquer un coup dur pour ce type de réseau criminel. Ça continuera, la nature a horreur du vide et dans la cybercriminalité, c'est pareil. Eux, ils partent en prison, il y en a d'autres qui vont prendre la place. Mais en tout cas, bravo aux forces de l'ordre. Article intéressant, très peu de détails techniques malheureusement. On est dans la limite du cyber, parce que je vois aussi énormément de gens parler de cartes avec des possibilités de retrait importants, ce genre de choses qu'on achète. C'est juste, il faut bien se rendre compte que les forces de l'ordre travaillent là-dessus. Entre 2022 et 2024, ils ont réussi pendant 2 ans à craquer des gabs, quoi craquer, à exploser des gabs, c'est ça le bon terme. Donc ce sont des attaques physiques. Les équipes de Cisco Talos ont publié un rapport complet visant des attaques sur les entités gouvernementales ukrainiennes et polonaises attribuées à un groupe russophone que Cisco Talos suit sous le nom de UAT-5647. Ce groupe, également connu sous le nom de Romcom, dont des rapports et sources ouvertes, déploie depuis fin 2023 des variantes et malwares sophistiqués, notamment dans le cadre d'attaques ayant pour cible des organismes gouvernementaux ukrainiens et des entités polonaises. Le malware, principalement utilisé dans cette série d'attaques, est une version mise à jour de Romcom baptisée Single Camper. C'est une version qui est particulièrement intéressante car elle est directement chargée depuis le registre dans la mémoire, rendant la détection traditionnelle plus complexe. Elle utilise également une adresse de loopback pour communiquer avec son chargeur. Donc de plus, le groupe UAT-5647 a diversifié son arsenal numérique avec plusieurs familles de malwares distinctes. Donc il y a 2 téléchargeurs qu'on appelle Rustclaw et Meltingclaw, ainsi que des backdoors basés sur Rust en C++ appelés directement Dusty Amok et Shady Amok. Pourquoi j'ai retenu cet article? Déjà, il est super bien fait. Je vous recommande plus que de le lire. C'est vraiment une petite bible à avoir. Mais c'est le fait qu'il faut conserver. Il faut que vous ayez, entre guillemets, écouter des podcasts, c'est génial. Lire de la revue de presse, c'est super sympa. Avoir des outils de CTI, c'est, j'irais, le cran d'en dessus, mais pour vraiment cranter dans le domaine de la CTI, il faut avoir sa petite base de données, sa petite encyclopédie personnelle. Ça se fait, il y a plein d'outils qui existent pour ça, c'est vraiment un point hyper intéressant. Mais l'un des aspects qui est le plus préoccupant de ces attaques est leur capacité à compromettre des devices en établissant des tunnels pour connecter des interfaces internes à des hôtes distants contrôlés par le groupe. Cela augmente les chances de contourner les mécanismes de détection et mise en place lors de la réponse à incident. Les chercheurs de Cisco Talos montrent que UAT-5647 poursuit 2 objectifs. Le premier, c'est établir un accès durable pour exfiltrer des données stratégiques et deuxièmement, potentiellement pivoter vers des attaques par ransomware pour perturber les opérations et tirer des gains financiers. Il n'y a rien de nouveau, on est sur des attaques classiques. On rentre, on fait de la roco, on voit s'il y a quelque chose à tirer, puis quand on voit qu'on a vraiment fait toute l'exploration du système d'information qu'on a compromis, on va effacer notre race via un ransomware. Si on peut récupérer un peu de pognon dans l'histoire, c'est quand même sympa. Mais l'évolution de ces groupes, c'est surtout l'adaptation de multiples langages de programmation, que ce soit du Goland, du Rust, du C++ ou du LUA. Ils montrent une volonté claire de contourner tous ces mécanismes de détection et de rendre leur attaque plus robuste. Si je prends dans les actions de post-compromission observées, il faut une reconnaissance réseau avec des outils qui sont très classiques. Par exemple, ils vont utiliser PuTTY pour créer des tunnels SSH. Et à partir de là, ils vont utiliser des commandes liées au système d'exploitation, donc par exemple un WAMI quoi, ou un netstat. C'est-à-dire que quand vous déclenchez ce type de commande, à 2h du matin, ça ne va pas forcément déclencher dans vos SIEM. Ça ne va pas tilter. Ce niveau de reconnaissance montre un accent mis sur l'espionnage avec des tentatives de contourner toutes les défenses des réseaux ciblés. Intéressant, je vous ai mis le lien en description de l'épisode. Ça vaut vraiment la peine. En plus, il y a pas mal d'IOC. On parlait dernièrement de comment faire de la CTI en ayant très peu de moyens. En s'abonnant à ce type de source et en travaillant sur les IOC communiqués, vous pouvez avoir pas mal de choses. HelpNet Security remonte à travers son site web que Microsoft a récemment perdu plusieurs semaines de journaux de sécurité cloud essentiels pour que ses clients puissent détecter les intrusions sur les SI. Cet incident, signalé pour la première fois par Business Insider, a vu Microsoft informer ses clients concernés de manière privée, précisant que cette perte n'était pas liée à une compromission de sécurité. Selon une revue préliminaire de l'incident, la cause principale est un bug dans un agent de surveillance interne, déclenché lors de la mise en place d'un correctif par un autre problème lié à un service de collecte de journaux. Le bug est apparu le 2 septembre 2024 à 23h heure UTC, lorsque certains agents de Microsoft ont rencontré des difficultés pour charger les données des journaux sur la plateforme interne de l'entreprise, entraînant une collecte incomplète des données. Malgré une solution temporaire introduite 2 semaines après la détection de l'incident, qui consistait à redémarrer périodiquement les agents ou serveurs affectés, certaines données de journaux ont définitivement été perdues et ne pourront pas être récupérées. Donc il faut savoir que les services touchés dans cet incident sont Azure Logic App, Azure Healthcare API, Microsoft Sentinel, Azure Monitor, Azure Trusted Sign-in, Azure Virtual Desktop, Power Platform et Microsoft Entra. Alors pour rappel, avoir une perte de journaux log, ça va pas impacter votre business au départ. C'est-à-dire que vous allez juste perdre la capacité à faire de l'archéologie ou de faire de l'investigation par rapport à un incident de production comme de cybersécurité. Je vois encore beaucoup de personnes dire « De toute manière, on prend n'importe qui dans la DSI, il va être capable de lire des logs. On n'a pas besoin d'avoir un ingénieur pour lire des logs. » C'est un peu faux quand même. Quand on fait une investigation, les logs sont vraiment quelque chose d'important. Et c'est pas Madame Michu qui passe par hasard, qui voit de la lumière, qui va faire de l'investigation sur des logs. Donc la perte de ces journaux, de ces logs, compromet gravement la capacité des entreprises à détecter des cyberattaques ou à répondre efficacement aux incidents. De plus, cet incident fait écho à des critiques formulées l'année dernière après une attaque par des hackers chinois où Microsoft avait été blâmé pour ne pas avoir fourni suffisamment de capacités de journalisation cloud à ses clients, retardant ainsi la détection de l'intrusion. À la suite de cet incident, Microsoft a décidé d'offrir un accès plus large aux journaux via Microsoft Purview Audit et a prolongé la période de conservation des journaux par défaut de 90 jours à 190 jours. Non, j'ai dit une bêtise. C'est de 90 jours à 180 jours. Et je vois encore dans beaucoup de... Quand je fais des audits auprès de sociétés type TPE, PME, quand il y a des logs, on est très content, mais il y en a même qui font les logs par défaut. Tous les 7 jours, elles sont effacées. C'est-à-dire que si vous voulez faire une investigation sur leur système, quand il y a des logs, bah c'est 7 jours. C'est court, 7 jours. Hein. 90, c'était pas mal. 180, sur certains systèmes, j'ai du mal à y croire par rapport à la capacité de stockage, parce que ça prend quand même beaucoup de place. Et plus vous voulez avoir des logs verbeuses, et bah plus il faut des disques durs, quoi. Il n'y a pas de miracle. Donc quand vous avez 3 serveurs, c'est jouable, en pâcher quelques terrains en plus. Mais quand vous avez 3000, 4000, 5000, 10 000 serveurs, voire plus, là, c'est plus des terrains, on est en pétaoctets. Donc, à voir ce que ça va donner. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du samedi 19 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Je pense que vous l'avez vu, je suis enrhumé. Je sais même pas comment j'ai pu attraper ça, mais bon. Vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans la description de l'épisode. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions que vous souhaitez voir abordées dans nos prochaines émissions, laissez-nous un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain dimanche pour un nouvel épisode. Je pars me remettre sous la couette. Miel, rhum et dodo. À demain.